propose maintenant que nous attaquions directement notre soirée, en commençant donc par la présentation de Fleur, qui va nous exposer une analyse qu'elle a faite à travers de nombreux articles dans les journaux qui parlent de la décroissance. C'est les articles qui parlent de la décroissance, pas les journaux qui sont entièrement dédiés à la décroissance, mais les articles. Fleur, qu'est-ce que tu peux nous dire des médias et de leur rapport à la décroissance ?
Donc, pour répondre à ta première question, on va plonger direct dans le vif du sujet avec une anecdote, pas une anecdote, une phrase que j'ai trouvée sous la plume de Jean-Philippe Delsol dans un article qui était paru dans Contrepoint. Et je vous la livre, cette phrase, c'est « Les décroissants sont des ignorants qui n'ont jamais eu faim ». Donc là, on a un bel exemple de décroissance bashing, je reviendrai sur ce mot-là, mais de moquerie en fait de la décroissance dans les médias. Il y a une double insulte en 10 mots, il faut quand même le faire, c'est très très fort. Et donc vous allez me dire que en même temps, je suis un petit peu folle de faire ces drôles de lectures, parce que Contrepoint, pour une décroissante, c'est un journal libéral qui a été jusqu'à faire paraître des tribunes climato-sceptiques, donc c'est peut-être pas la meilleure des choses. Et effectivement, je ne m'inflige pas ça par plaisir. Je le fais dans le cadre d'une revue de presse que je réalise dans le cadre de la Maison commune de la décroissance, donc une association nationale de construction, de consolidation de la philosophie politique et idéologique de la décroissance. Et donc, on a commencé cette revue de presse en 2020 pour savoir un peu ce qu'on dit de nous et pour pouvoir y répondre, forcément. À la lecture des différents articles depuis maintenant 2 ans, je peux répondre clairement, on peut dire qu'il y a dans les médias français, un véritable décroissance bashing. Parce que la phrase de Jean-Philippe Delsol, je l'ai peut-être trouvée choquante à l'époque, et vous l'avez peut-être trouvée choquante, mais maintenant je la trouve on ne peut plus banale. Ça fait 2 ans que je tiens cette revue de presse de manière régulière, donc je suis vraiment devenue un peu familière du traitement médiatique qui est réservé à ce mouvement qu'est la décroissance et à ses militants et militantes, en particulier au sein des hebdomadaires de droite, mais pas que. Et donc, le terme d'ignorant, maintenant, il sonne doux à mes oreilles. J'ai pu rencontrer d'autres termes comme pâquerettiste, c'est un dérivé de pâquerette, de rabougri, de khmer vert, ça, c'est un grand, grand classique, et il y en a d'autres, j'en passe. Donc, le décroissance bashing, il existe dans les médias français. En gros, son équivalent en français, la traduction qu'on pourrait lui donner, c'est le lynchage médiatique. C'est vraiment l'espèce de jeu collectif qui consiste à dénigrer systématiquement un sujet, dans notre cas, la décroissance. Et donc, c'est pas une notion très, très bien définie scientifiquement, mais en gros, on peut quand même affirmer qu'elle recouvre à la fois les notions de moquerie permanente, de critique infondée et de caricature. Et donc, c'est ici que nous trouvons un point commun entre les décroissants, les cheminots, François Hollande, Raymond Domenech et Nabila, on pourrait en faire une devinette, ils constituent tous une forme de bouc émissaire collectif médiatique. En un mot, ils sont et nous sommes victimes de bashing. Et donc, quand j'ai fait ce constat, au bout d'un certain temps, je me suis dit qu'il fallait quand même aller plus loin dans l'analyse et je me suis mis à poser un certain nombre de questions en fait, à tous les articles que je récoltais. Et en gros, je voulais savoir c'est quoi les cadrages interprétatifs de la décroissance dans les médias. Donc, je me suis demandé comment les médias couvraient ce sujet, quelles interprétations ils en ont, quels discours ils tiennent, qu'est-ce qu'ils rapportent sur le sujet, qui en parle dans les médias et comment, quelles idées décroissantes sont mises en avant, quelles idées sont censées être décroissantes, façon prêtée à la décroissance, etc. Et donc, au résultat de cette analyse, j'ai pu dégager 2 grands axes. D'un côté, les malentendus et de l'autre, les clichés. Les malentendus, c'est les propos sur la décroissance de proches, mais qui refusent en fait en quelque sorte le terme ou le détournent ou l'arrangent à leur source, en fait, qui font une espèce de hors-cadre, qui vont avoir une forme de volonté de fuir le cadrage décroissant. Je vais y revenir après pour expliquer. Et de l'autre côté, vous avez toute une série de clichés, c'est la majorité des articles de mon corpus, où en fait, c'est toute une série de stéréotypes qui sont balancés, on peut le dire, par les opposants et les détracteurs de la décroissance. Et ces clichés, je les ai regroupés en 4 types de clichés différents, 4 cadres en fait d'analyse différents. Les clichés qui relèvent du cadre économique, ceux qui relèvent du cadre social, ceux qui relèvent du cadre environnemental et ceux qui relèvent du cadre politique.
Alors, peut-être qu'avant de nous décrire ces malentendus et ces clichés, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement ton corpus et les médias concernés, qu'on se fasse une idée générale ?
Alors, je me suis appuyée sur un corpus majoritairement de presse écrite. Il y a quelques retranscriptions de radio, mais c'est majoritairement de la presse écrite en ligne. Et j'ai un corpus de 80 articles issus de 31 médias différents. Donc, il s'étale ce corpus de juin 2020 à juillet 2021. et il y a des médias. Donc, si je vous fais la liste, il y a Les Échos, Le Point, Libération, Le Figaro, Le Monde, L'Express, Reporter, Le Nouvel Observateur, Atlantico, L'Opinion, Contrepoint, Le Midi Libre, tout ça par ordre décroissant. Hein. Donc, on trouve en fait majoritairement de la presse nationale. Le sujet aussi majoritairement traité dans la presse dite de droite, alors je ne rentre pas dans les détails, mais qu'elle soit conservatrice ou libérale, et en particulier en fait dans la presse économique. Hein, il y a plus de 10% de mon corpus qui est constitué par Les Échos. Ensuite, je viens Le Point. Ensuite, Libération. Bon, voilà, Le Figaro aussi, corpus très important. Et ce qu'on peut remarquer, ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'en plus d'être majoritairement dans la presse de droite, les articles sur la décroissance sont majoritairement abordés au sein des espaces périphériques des médias. C'est vraiment une affaire de tribun. Elle ne va pas faire l'objet d'articles de fond. Enfin, elle va faire peu l'objet d'articles de fond. Elle est abordée via des tribunes, des débats d'opinion, des chroniques, éventuellement des interviews. Mais par exemple, si vous regardez Le Point, mes 10 articles du Point, ben, il y en a 6 dans la rubrique débat. Mes 12 articles des Échos, eh ben, il y en a 11 dans Idées Opinions. 50% des articles du Figaro, c'est dans la rubrique Vox. Donc vraiment dans les médias d'opinion libre, ben, dans les parties opinion libre, et très peu, par exemple, dans les éditos. J'en ai que 2 dans mon corpus, hein, de l'Usine Nouvelle et de Libération. Donc voilà, c'est un peu le panorama. Bon, cette étude, elle vaut ce qu'elle vaut. Je veux dire, le corpus est assez complet pour dégager des tendances générales et donner des exemples détaillés. Après, bien sûr, il faut souligner que dans une perspective vraiment de recherche, il y aurait bien des biais à corriger, il faudrait nuancer, approfondir, on pourrait aller voir ce qui se passe à la radio, à la télé, il faudrait voilà, affiner un peu la méthode de recherche des articles, parce qu'elle a évolué en fait ma méthode à travers le temps. Et puis, il faudrait aussi peut-être nuancer le propos de manière historique, parce que ma revue de presse, là, qui s'étale donc sur un an, juin 2020 à juillet 2021, en fait, elle est en contexte de pandémie, de crise sanitaire, de confinement et de récession économique. Donc, ça a forcément une influence sur le traitement médiatique de la décroissance. Enfin, ça a forcément, ça a possiblement une influence. Et il n'est pas certain que le traitement de la médiatique de la décroissance ait été le même, par exemple, moi, au début des années 2000, quand l'altermondialisme était très en vogue, ou peut-être en 2008 à la crise de subprime, ou même pendant la campagne des écologistes. Il faudrait faire cette comparaison historique, ça pourrait être intéressant. Et je rajoute juste que dans le cadre de cette présentation, il y a des exemples aussi qui se nourrissent, ou en tout cas qui recoupe un travail qu'avaient fourni les adhérents de Génération Écologie sur les identifications des objections à la décroissance. Et franchement, c'est vraiment intéressant de voir à quel point notre vécu à nous en tant que décroissants, ou en tout cas personnes qui parlons de la décroissance, eh bien, il recoupe vraiment ce qu'on entend chez les autres, ça recoupe vraiment ce que peuvent dire ces grands tribuns là, de la presse de droite économique. Ça se recoupe sur les clichés en tout cas. Et ça me fait rire, c'est-à-dire qu'on a tous un peu un tonton Luc Ferry à table le dimanche midi qui nous embête sur la décroissance avec ses idées bien arrêtées. Et donc, il faut qu'on apprenne à lui répondre absolument. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est plutôt une bonne chose.
Et du coup, donc, il y a de nombreux malentendus et clichés qui ressortent de manière récurrente. Peut-être que nous pouvons très rapidement déjà passer sur la question des malentendus.
Ouais. En gros, les malentendus, en réalité, c'est quand les compagnons de route de l'écologie politique, hein, nos compagnons de route à nous décroissants, refusent d'assumer en fait le terme de la décroissance et vont chercher à le décrédibiliser ou à l'atténuer. Ils vont tenter de ce que j'appelle, ils font du hors cadre en fait, comme il y en a qui font du hors piste en ski, ils font du hors cadre. Ils vont vraiment faire un pas de côté pour ne pas avoir à assumer ce terme, pour ne pas avoir à le revendiquer. Et donc je suis désolée de le dire, mais dans ma liste d'articles, l'ensemble des autres candidats à la primaire écologiste, les autres, hein, en dehors de Delphine Bateau, donc que ce soit Yannick Jadot, Éric Piolle, Sandrine Rousseau, ils sont dans ma liste, en fait, notamment dans les matinales à France Inter. J'ai des retranscriptions des matinales à France Inter où apparemment c'est très à la mode d'énumérer des malentendus sur la décroissance. Mais il n'y a pas que, il y a aussi l'ensemble des personnalités politiques en fait, qui sont vraiment proches de l'écologie politique. Des gens comme Nicolas Hulot, Cyril Dion, etc. Dominique Méda aussi, qui vont, en fait, sont d'accord sur le diagnostic de départ, sur l'absurdité du monde de la croissance, sur le fait qu'on va dans le mur écologiquement, mais ils ne sont pas d'accord sur le fait qu'il faille des politiques de décroissance pour en sortir. Et donc, ils vont développer généralement 3 malentendus caractéristiques. 1, que la décroissance, ce n'est pas le bon mot. Donc ça, je ne vais pas développer là-dessus. On pourra toujours y revenir lors de la discussion si certains veulent approfondir. Mais voilà, c'est vraiment le plus gros malentendu possible, que ça fait peur, qu'il faut parler d'accroissance, de post-croissance ou de mots qu'on ne comprend pas. Voilà, ça, c'est le premier. La décroissance n'est pas le bon mot. Le deuxième malentendu, généralement qui est très présent dans la presse, c'est que en fait on va venir montrer que croissance et décroissance c'est le même combat, c'est-à-dire qu'on les construit comme des camps opposés, comme les deux faces de la même pièce, hein, un peu sur le mode de l'affrontement religieux parfois aussi. Et en fait les personnes qui le font dans l'optique de se débarrasser de l'un comme de l'autre. En fait elles tentent d'incarner une troisième voie, c'est-à-dire que la décroissance c'est vraiment l'équivalent de la croissance. Moi je suis pas religieuse, ça c'était Eric Piolle qui l'avait dit, je propose une troisième voie. Donc j'entends des choses comme, j'ai trouvé des choses comme pour promouvoir le convivialisme, pour promouvoir, je sais pas, l'économie de la connaissance, l'écologie politique, des trucs un peu tirés par les cheveux parfois, comme je trouvais un jour l'économie désirable, ni décroissance ni finance verte pour un modèle productif de la sobriété. Donc voilà, il renvoyait, c'est Pierre Vels, c'est pas inintéressant, mais il renvoyait croissance et décroissance à dos pour toujours une troisième voie un peu tirée par les cheveux. Le troisième malentendu qu'on voit très souvent, et c'est pareil, je pense qu'il peut poser question, on en reparlera peut-être, c'est ceux qui prônent, qui disent OK pour la décroissance, mais une décroissance sélective. Et le meilleur exemple de ça, c'est Nicolas Hulot qui avait été cité par Xavier Martinet dans France Culture, dans le journal de l'Écho, et qui disait moi je veux la croissance et la décroissance sélective. Alors, on peut faire difficilement moins clair en termes de ligne politique. Voilà, donc ça c'est les trois malentendus principaux. Et bien en ajouter un quatrième dans une presse qui est plutôt favorable pourtant normalement à la décroissance, une presse comme Reporter bien évidemment, mais aussi Nouvel Observateur et Libé, mais en fait qui va véhiculer le malentendu que la décroissance c'est comme la simplicité volontaire, mais qui va se contenter d'assimiler la décroissance comme étant plus de sobriété au niveau individuel, comme si cela suffisait en fait. Et donc, on oublie en fait toute la partie remise en question du système et toute la partie décroissance politique. Donc ça, c'est vraiment les quatre malentendus qu'on retrouve le plus dans la presse. On pourra en discuter après et décortiquer en quoi, au lieu de rendre plus acceptable le concept, en fait, on pourrait croire que ces manières de présenter la décroissance le rendent plus acceptable. En fait, ça vient l'affaiblir politiquement et ça brouille le message décroissant. Donc, ça peut poser souci pour la clarté de notre message politique.
Effectivement, ça donne l'impression de vouloir, alors consciemment ou inconsciemment, flouter le message ou le rendre brouillon. On aura l'occasion d'y revenir. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait aborder donc les clichés, les objections? Tu nous as dit effectivement que dans l'analyse de la lecture des articles, tu les avais catégorisés en quatre grands blocs, économique, social, politique, écologique. Est-ce qu'on peut les passer en revue? Et donc, commençons, soyons fous, par le cadre économique.
Oui, c'est pas trop fou de commencer par ça parce qu'effectivement, en fait, c'est l'objection principale, je pense que ça, enfin l'objection, le cliché même principal, ça représente environ un tiers de mon corpus. On s'est tous entendu dire en tant que décroissant, la décroissance, c'est la faillite économique. En gros, si je résume, si je veux faire court, c'est tout à fait ça. C'est un discours qui n'est pas nouveau, que la décroissance amènerait la faillite économique, mais c'est un discours qui a été vraiment réactivé, accéléré dans le cadre de la crise Covid. Dans ma revue de presse, il y a vraiment une série de tribuns, là, à la Luc Ferry, à la Jean-Philippe Delsol, qui se sont employés en fait à démontrer que ce qu'on vivait depuis la crise Covid, au niveau économique, mais aussi au niveau social, c'est une expérience de décroissance en direct. Et donc, on en trouve un parfait résumé dans ce titre d'un article écrit par Jean-Marc Sylvestre pour Atlantico, qui dit « La crise du Covid prouve aux écologistes partisans de la décroissance que leur modèle nous conduit à la ruine. » Donc, cette affirmation repose bien évidemment sur une série de mythes qui n'ont jamais besoin d'être démontrés par leurs auteurs. Ces mythes-là, je les fais dans l'ordre. C'est 1. La décroissance, c'est l'augmentation de la misère. 2. La décroissance, c'est l'explosion des inégalités. 3. C'est les pauvres qui paieront le coût de la décroissance et c'est donc inacceptable d'un point de vue social. Et 4. C'est la croissance qui a permis la baisse des inégalités, la redistribution des richesses, le développement des prestations sociales, de la santé, de l'éducation, etc. etc. Donc, automatiquement, la décroissance viendrait annuler les effets sociaux bénéfiques de la croissance. Voilà, ça, c'est vraiment les 4 arguments qui sont partagés par tous les auteurs qui écrivent sur la décroissance comme une faillite économique. Donc, j'ai trouvé des petits exemples de leurs affirmations. Je vous en livre quelques-unes. Contrepoint toujours, Jean-Philippe Delsol qui nous livre un article appelé « La décroissance ou le chemin de la pauvreté », comme si c'était synonyme. C'est un article qui date du 12 juin 2020. Dans Le Point, Jean de Kervas-Doué qui nous dit « Chacun pourra mesurer ce que veut dire décroissance, faillite, chômage, violence ». rien que ça. Nicolas Bouzou qui signe un article intitulé « Misère de la décroissance » dans l'Express, où il développe vraiment que la décroissance est la misère. Les Échos qui titrent un article « Les dangers de l'économie de la décroissance », etc., etc. Je préfère une litanie qui durerait peut-être 20 minutes parce qu'il y en a pléthore. Et donc, ces propos amènent généralement leurs auteurs à la conclusion qu'il faut des technologies propres pour découpler la croissance de ces effets dévastateurs et que c'est la seule manière, en fait, la croissance d'augmenter le niveau de vie, les opportunités de travail décent, la lutte contre la pauvreté, etc., etc. Donc, si ça vous intéresse de savoir démonter ces arguments-là, on pourra y revenir très, très facilement dans la discussion. Ça ne devrait pas poser de soucis.
Mais maintenant qu'il fait nuit, en fait, je m'aperçois qu'on n'est pas avec nos lampes à huile autour de la table et qu'on a tendance à traiter les décroissants d'Amish. Et donc là, on est vraiment maintenant en train de basculer sur le cadre social des objections. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, c'est exactement ça. Bah, en fait, le cadre social, j'ai regroupé dans ce cadre-là toutes les critiques infondées, bien sûr, qui présentent les valeurs décroissantes comme étant incompatibles avec les valeurs de la modernité, l'émancipation, l'humanisme, la liberté, le progrès, etc. Et donc, ça cherche vraiment à catégoriser les décroissants et les décroissantes comme des gens appartenant à un hors-monde. Les auteurs qui développent ces idées-là, ils viennent réactiver des clichés très, très anciens que moi, je pensais sincèrement, à l'heure de la crise climatique qu'on vit, que ces clichés-là, quand même était largement dépassé, que ça appartenait au passé. En fait, pas du tout. J'en ai trouvé un exemple. Alors là, j'ai pris quand même le plus symbolique, mais faut quand même le faire, de Jean-Marc Sylvestre, qui écrit un article dans Atlantico, qui dit « On se chauffe au bois », donc il parle chez les décroissants, quoi, hein, si on était une société de décroissance. « On se chauffe au bois, on s'éclaire à la bougie, on mange des légumes verts et des écorces. » Donc, ça donne envie de rigoler parce que c'est vraiment à côté de la plaque. C'est très, très caricatural. Mais en réalité, c'est une caricature qui porte un message fort, en fait. C'est que toute personne qui est critique du monde dans lequel on vit serait à côté de la plaque. Et c'est exactement ce que tu disais quand tu parles des Amish. Hein, c'est Macron, en fait, hein, les Amish, hein, qui nous a traités d'Amish, les écolos, dans le cadre de la lutte contre la 5G, il y avait des voix qui s'élevaient pour demander à ce qu'on évalue les effets sanitaires, sociaux, écologiques de l'installation de la 5G, qu'on parle des coûts, qu'on parle de la démocratie autour de telles installations, etc. Pourquoi on n'était jamais partie prenante en tant que citoyen. Bref, des aspirations politiques qui me paraissent quand même assez légitimes. Et ces gens-là qui se posaient la question s'étaient fait traiter d'Amish. C'est vraiment la même chose que quand on nous parle du retour à la bougie, du retour à la caverne. C'est en fait quiconque critique le progrès ou la technologie serait un homme des cavernes, veut le retour à la bougie, c'est fondamentalement quelqu'un qui n'est pas en phase avec son époque, c'est un ringard, un loufoque, un ermite, un asocial, enfin vraiment quelqu'un qui ne fait pas partie de ce monde. Et c'est une manière très forte de décrédibiliser le message politique de nous, notre critique du progrès, de notre critique de la modernité, etc. Et on nous présente coupé du monde et coupé des autres, et ça va même plus loin parfois que juste bon, le fait qu'on mange des écorces, c'est qu'on retrouve régulièrement dans des articles, j'en ai trouvé plusieurs exemple, des accusations de repli sur soi et d'individualisme. C'est un article de Marc Toiti qui développait cette thèse dans Capital en février 2021. Un article de Marc Fontcave aussi dans Le Point en décembre 2020. Enfin, c'est pas anecdotique. Et ça allait même jusqu'à nous accuser d'une sorte de dérive, de détestation de l'humain. On parlait de la décroissance au détriment de la vie humaine. Et Jean-Philippe Delsol, toujours lui, dans La décroissance au chemin de la pauvreté, dit clairement, les décroissants veulent moins d'enfants, pas de famille, une planète vide. Et donc voilà, on voit vraiment la décroissance comme un anti-humanisme. Hein. Les cadres sociaux, c'est ça. Et face à ça, il faut qu'on défende notre humanisme, notre technocritique. Et donc, il y a tout un travail philosophique et idéologique à porter pour ne pas se laisser la porte ouverte en fait, à ce genre de clichés qui sont bon, à la fois rigolants, mais aussi potentiellement dévastateurs. Quoi.
Et alors, si le débat s'arrêtait là, c'est déjà énorme, mais on s'aperçoit que non seulement on mange des écorces, qu'on est décroissant, mais en plus on est objecteur de conscience politique, en ce sens où il serait antidémocratique, liberticide, totalitaire. Ça, c'est vraiment une entrée qui apparaît dans le cadre politique, a priori.
Oui, alors objecteur de conscience politique, c'est vraiment joliment dit, j'ai gardé le terme, je l'ai noté là. J'avoue que c'est un peu moins joli quand même ce qu'on trouve sous la plume des auteurs. C'est pas tout à fait comme ça qu'on nous définit, mais c'est sûr qu'on doit faire l'effet d'un poil à gratter idéologique parce que ça provoque vraiment des réactions épidermiques. Là, dans le cadre politique, on trouve vraiment, vraiment le décroissance bashing pur jus. C'est-à-dire que non seulement il y a toute une pratique qui consiste à insulter les décroissants, comme on l'a vu avec Jean-Philippe Delsol, qui est un peu le maître en la matière, mais aussi il y a toute une pratique qui consiste à utiliser, très bizarrement, le mot décroissant comme un attribut décrédibilisateur, comme un adjectif en fait, un adjectif péjoratif. Une figure de style en fait où on va tout simplement moi, je lis des articles qui ne parlent pas du tout de décroissance, mais à un moment, des hommes et des femmes politiques, hein, pas des journalistes, vont se servir du mot décroissant pour décrédibiliser leur adversaire politique. C'est un peu un adjectif qualificatif qui serait le synonyme de mauvais, de mal, je ne sais pas quoi. Je vais vous donner des exemples pour que vous y voyez plus clair. La spécialiste du genre, c'est Valérie Pécresse. Je pense que c'est elle qui a lancé la mode de faire du décroissant un adjectif péjoratif, parce que je la retrouve un peu partout au moment des régionales. Elle avait qualifié le programme de décroissance de Julien Bayou. Bon, pour le décrédibiliser, il suffisait qu'ils disent que c'était un programme de décroissance. Bon, on n'est pas tout à fait d'accord que Julien Bayou, je crois, se définirait pas lui-même comme décroissant, mais voilà. Elle parlait aussi qu'elle avait fait face dans sa campagne, elle faisait face à l'alliance de la gauche, de l'extrême gauche, avec des sympathisants indigénistes, islamo-gauchistes et décroissants. Voilà, là, elle avait fait une petite totale, là, comme ça. C'était dans un repris tout ça dans Le Point. Elle a fait des émules, hein, puisque c'est Christelle Morantet qui nous disait qu'elle avait dû faire face à une gauche de décroissance qui a aussi perdu sa boussole. Elle aurait pu se contenter de dire gauche qui a perdu sa boussole. On aurait pu partager le constat avec elle. Maintenant, il a fallu qu'elle dise gauche de décroissance. Ça venait vraiment appuyer son propos, le rendre encore plus catastrophé, quoi. C'est assez bizarre. Et donc, on l'utilise aussi, le mot décroissant, parfois pour venir appuyer un discours défaillissant, alarmiste ou effondriste. Il y a des articles, en fait, qui ne vont pas forcément parler de décroissance, qui ne vont pas s'attaquer à nos idées, mais qui vont simplement mettre le mot décroissant parce que ça vient s'insérer comme ça dans un champ lexical du déclin. Faillite, misère, inégalité, chômage, violence, privation, décroissance. Voilà. Ils utilisent ce mot-là pour créer parfois dans des articles des atmosphères déclinistes. J'en ai plein d'exemples, hein. J'ai des titres, notamment des Échos. Les Échos, pourquoi la décroissance est une folie, ça c'est un titre. Les Échos, ne confions pas la planète aux prophètes de l'Apocalypse, et là on se rend compte qu'ils parlent des décroissants. Capital, un article intitulé « L'économie s'est-elle vendue à Thanos, adepte de la décroissance ?» C'est une manière d'utiliser le mot décroissant, de décrédibiliser et de construire une atmosphère décliniste. Et ça, ça va bien évidemment, ça ne nous aide pas à faire percer le concept de manière positive. La dernière manière de traiter politiquement la décroissance, c'est vraiment celle qui est majoritaire et celle que tu as mentionnée, c'est vraiment de présenter la décroissance comme étant foncièrement, totalement antidémocratique, voire totalitaire, voire prête à s'imposer par la dictature, parce que d'ailleurs, elle ne pourra le faire que comme ça, et donc fondamentalement liberticide. Ça, c'est vraiment des propos qu'on retrouve chez tonton Luc Ferry, hein, et à peu près aussi tous les autres tribuns cités auparavant. Il nous avait fait une très belle interview dans l'Express, Luc Ferry, avec Claire Chartier, où il disait que la décroissance est invendable démocratiquement. Et voilà, il expliquait pourquoi, et pourquoi, à son avis, c'était liberticide et antidémocratique. Et ça rejoint des tribunes qu'il écrit très régulièrement aussi dans le Figaro, où il aime nous qualifier de Khmer vert. Hein, les Khmer verts partisans de la décroissance. Khmer vert, a priori, ça peut faire sourire parce qu'il y a le jeu de mots, la référence à, bon, voilà, vert, rouge, mais en vrai, les Khmer rouges, le Cambodge des années 70, c'est quand même une dictature d'une extrême violence, la migration des citadins vers les campagnes dans des conditions proches de l'esclavage, les chiffres officiels, c'est entre 700 000 et 2 millions de morts, enfin, les camps de rééducation, etc. En fait, c'est pas anecdotique, et donc Khmer vert, c'est terriblement violent et c'est terrifiant qu'ils puissent se balader dans les médias pour pouvoir dire des choses pareilles, et j'ai au moins 4 occurrences d'endroits où ils nous traite de Khmer vert, quoi. Donc voilà, bon, on va passer sur le sujet, est-ce qu'on pourra en parler des heures. Il faudrait leur poser la question, en fait, et peut-être on y reviendra à la fin aussi, mais de quelle liberté parle-t-il vraiment? Pareil pour la démocratie, de quelle démocratie parle-t-il? Parce que nous, on mène un travail de redéfinition décroissante de ces notions, on a un argumentaire sur la liberté et la démocratie, et on peut leur renvoyer à la figure que ce qu'ils défendent comme étant la liberté, ce qu'ils défendent comme étant la démocratie, ça n'en est pas réellement.
C'est déjà bien chargé, hein, mais j'ai l'impression que dans la littérature, on va encore plus loin dans le bashing. Puisque la décroissance, ça serait pire que le greenwashing et ça serait même anti-écologique. A priori, comment on peut essayer de décortiquer tout ça?
Oui, bah, ça va être rapide, c'est la fin là, parce que c'est vraiment le dernier cadre. C'est le plus surprenant, en fait. En tout cas, pour moi, ça a été le plus surprenant pendant ma revue de presse, parce que je ne m'attendais vraiment pas à trouver cette critique. Pour vous dire, la critique, c'est qu'en fait, la décroissance n'aurait pas vraiment pour objectif de sauver le climat, qu'elle ne veut pas protéger l'environnement. Donc, c'est quand même assez fort de café. J'en ai divers exemples, hein. J'ai Christophe Rameau dans Le Monde qui assumait qu'il y avait impossibilité de concilier les objectifs de protection de l'environnement tout en en prônant la décroissance. Bertrand Piccard dans Europe 1 qui disait qu'on ne va pas protéger l'environnement avec de la décroissance. Polychroniou dans le journal À l'encontre disait les politiques de la décroissance ne peuvent pas éviter la crise climatique. Enfin voilà, ils disent tous la même chose. Et en fait, c'est parce qu'ils réduisent l'écologie à la problématique de l'énergie, la décarbonation ou la stabilisation du climat, alors que nous, on en a une compréhension beaucoup plus systémique, en fait. Et souvent aussi, c'est parce qu'ils couplent cette argumentation à on a besoin de croissance pour résoudre les problèmes écologiques et financer la transition écologique. Et donc, c'est les nouvelles technologies financées par la croissance qui nous sauveront, car elles vont permettre le découplage. Or, les décroissances sont technophobes, donc ils empêchent la possibilité de ce découplage. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un grand écart intellectuel ou une pirouette, en tout cas, que ça demande parce qu'ils inversent les effets et les causes. Enfin, on peut leur répondre très facilement, on pourra peut-être développer ça après, mais bon, on a besoin de croissance pour résoudre les problèmes écologiques. Pour nous, on sait que c'est quand même la croissance qui est à l'origine de nos problèmes écologiques. Et là, il y a quand même un renversement qui est fort de café, mais c'est pas du tout rare de nous accuser de ne pas vouloir, de ne pas pouvoir sauver le climat. Bon, bah voilà. Bah, j'ai fini. En conclusion, quand même, je voulais simplement rajouter que quand je lis tout ça et quand j'avais fait ça au début, je m'inquiétais de tous ces clichés, tous ces malentendus. En même temps, maintenant, je sais qu'on peut y répondre. On a l'argumentaire philosophique, politique, pragmatique, etc. pour faire les réponses. Donc, il faut fournir et continuer à fournir le boulot du travail théorique, en fait, et politique pour sortir la décroissance de ces généralités, parce que c'est ça aussi qui permet tous ces malentendus et ces clichés. Et il faut se rendre compte que certaines de ces critiques, alors pas forcément celles que j'ai évoquées là, mais les critiques peuvent être fécondes et peuvent nous aider aussi à clarifier le concept de la décroissance. Je souligne que la MCD, nous, on va sortir un bouquin en juin sur justement les idées reçues. Donc, malentendu d'un côté, cliché de l'autre, on les analyse, on les décortique, on y répond. Et puis, on propose aussi toute une série de déclinaisons pour rendre la décroissance plus concrète. Ça, c'est important. Et puis, je crois qu'il faut continuer à travailler à la visibilité du concept. Et là, la campagne de Delphine Bateau et Génération Écologie a grandement contribué à rendre ce concept plus audible. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait continuer en fait, d'analyser la revue de presse au-delà de juillet 2021, et voir si le traitement médiatique pendant la campagne pour la primaire écolo s'est modifié ou pas. Enfin, ça pourrait être intéressant de continuer à mener ce travail. Je le ferai peut-être un moment si j'ai le temps. Et en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'on a une demande légitime qui devrait être entendue en tant que décroissant et décroissante. C'est que la décroissance, elle soit discutée dans le débat public au même titre que toutes les autres options politiques. En fait, on leur demande pas de valider le concept, hein, on aura toujours des adversaires politiques, mais il faut au moins veiller à ce que le concept soit pas dénaturé. Et donc là, on sait qu'on a encore du boulot. Voilà. Merci.